Tu me mets la main là.
Alors, chers amis, pour cette paracha Yitro, donc la paracha des 10 commandements, on va étudier un texte d'un rave que on a, je pense, peut-être une fois on en a parlé, d'une chassidoute pas très célèbre, c'est la chassidoute de Krichenev. D'accord ? Krichenev. Krichenev, c'est un petit village, d'accord, en Roumanie. Comme vous diriez, le rabbi de Saint-Martin-du-Riaz.
Ouais. D'accord.
À l'époque, il y avait des juifs dans toutes les contrées, dans tous les plus minuscules patelins de l'Europe de l'Est, d'accord, ils ont tous massacré. C'est d'ailleurs ça qui faisait la grandeur d'un petit patelin. Des fois, il y a des tout petits endroits où il y avait des milliers de personnes qui venaient parce qu'il y avait un grand rabbi. Eh bien, à Krichenev, il y avait un rabbi. Qui est ce rabbi de Krichenev? Alors, en réalité, comme dans toutes les chassidoutes, vous avez un fondateur de la chassidoute, puis il y a deux enfants. Un, il va à droite, l'autre, il va à gauche. Et donc, au lieu de la chassidoute de Grenoble, ça fait une chassidoute de Saint-Martin-de-Riaz, une chassidoute de Voiron. D'accord? Et comme ça, ça essaime les chassidoutes à partir d'un rabbi initial. La même chose. La chassidoute de Krichenev, c'est 19e. C'est une subdivision de la chassidoute de Nadvorna. Bon, donc il y a des grandes chassidoutes. D'accord, le père de la chassidoute, c'est le Baal Shem Tov, bien évidemment. Mais après, il y a ses élèves, le Magid de Meserich, etc. Et puis après, dans les élèves, ben, vous avez fondé Chabad, c'est Lubavitch, c'est la ville de Lubavitch qui a donné les différentes chassidoutes. Et puis après, les autres chassidoutes se sont développées. Eh bien, Krichenev, c'est une sous-chassidoute de Nadvorna. Vous allez dire, bon, ça nous fait... On connaît ni l'un ni l'autre. Si, parce que après, vous avez des grandes chassidoutes, des petites chassidoutes, par exemple, Nadvorna, c'est aussi une très grande chassidoute, etc. Et donc le nom dans la chassidoute de Krichenev, le nom de famille, parce qu'il faut se rappeler, c'est Rosenboim. D'accord, le premier admour de Krichenev, il s'appelait Rabbi Meir Rosenboim. Rosenboim, c'est le rosier, Rosenboim, d'accord. Et donc il a fondé cette chassidoute et ses enfants, eh bien, ils ont développé cette chassidoute Krichenev. Et quand elle s'est séparée, eh bien, il y a un des enfants qui est parti dans une ville qui s'appelait Sziget. Sziget, c'est connu pour nous parce que c'est la ville natale de Elie Wiesel. Toujours, il parle de Sziget. Et donc, ça a donné la chassidoute Krichenev-Sziget. Parce qu'il y en a qui voulaient garder le lien avec la branche initiale. Parce qu'il s'est dit, si je mets chassidoute de Champs-Rousses, c'est pas terrible. Alors, je mets plutôt de Grenoble-Champs-Rousses. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, c'est le système de la chassidoute. Et donc, aujourd'hui, on va étudier un très beau Dvar Torah du dernier rabbi, pas le présent. Oui, il y a encore une chassidoute, c'est une petite chassidoute, hein, Krichenev. Il y a des toutes petites, c'est pas énorme, quoi. Par exemple, il y a des grandes comme Belz, comme Bourg, comme Chabad, etc. Mais c'est une chassidoute importante. Notre ami Vreshner, il est très lié avec la chassidoute Krichenev. Moi, je suis aussi allé voir le rabbi de Krichenev actuel, qui est un très grand tzaddik. D'accord, il a Yerushalayim, ils sont deux frères. Il y a un qui est à Beth Shemesh, et l'autre qui est à Yerushalayim. C'est des grands tzadikim, attention, je dis, bah, pas besoin de dire attention, mais dire bon, ça nous paraît un peu folklorique, vous voyez, ces villages, ces noms, etc., cette succession du fils, de père en fils, etc., on n'est pas habitué dans le monde sfarad. Encore que, on a aussi Chassidou de Pinto et Abersera, c'est aussi pareil, quand tu t'appelles Abersera, ben, t'es rave de père en fils, hein, et Pinto pareil. Mais chez les Ashkenazim, c'est beaucoup plus développé. Et donc, le dernier rabbi de Krichenev, il s'appelait Rabbi Tzvi Hirsch. D'accord? Je vous mettrai la photo dans le speed. Tzvi Hirsch de Krichenev, c'est lui dont on va étudier ce Dvar Torah maintenant. Et il a eu plusieurs enfants. Un qui est à Yerushalayim, qui est un très grand tzaddik, et je suis allé le voir, il a pu demander une bracha. Et il y en a un autre qui est aussi à Beit Shemesh. Ok? Et c'est des gens, des grands chachamim. Alors, de quoi il va nous parler? Ça change rien, parce que de manière qui est dit, c'est un Dvar Torah, c'est la paracha qui nous intéresse. C'est une remarque très intéressante, d'accord? Et comme souvent, il y a des questions qui sautent aux yeux et qu'on n'analyse pas, on ne les voit pas. Regardez, juste avant le don de la Torah, oui, la chronologie du don de la Torah est assez complexe, parce que Moshe, il montait, il descendait, il allait, etc. Ça durait 3-4 jours, suivant les avis, pour que la Torah soit donnée le 6 ou le 7, est-ce que Moshe Rabbeinu l'a rajouté un jour ou pas. Mais en tout cas, Hachem, il appelle Moshe, il a dit, reviens, va leur dire. Et puis, en réalité, Moshe Rabbeinu, au dernier moment, il s'est fait piéger, puisqu'il est monté, Hachem, il a dit, va leur dire. Et donc, entre guillemets, Hachem, il a profité que Moshe soit en bas, et tac, il a donné les 10 commandements. D'accord? C'est-à-dire, alors que Moshe aurait pu être en haut, au départ, le plan initial, c'est que Moshe soit en haut pour les 10 commandements et qu'il retranscrive aux autres en redescendant. Puis après, le peuple, ils ont dit non, on veut que ce soit Hachem qui nous parle directement. D'accord ? C'est ce qui s'est passé. Les 10 commandements ont eu lieu quand Moshe était en bas. Donc, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout un intermédiaire. C'est la première chose. Et en introduction, il y a ce passage qui dit « Ou Moshe, Allah, Ela Elohim, Vaikra, Ela Vashem, Inaha » Les morts. Moshe est monté vers Dieu et Hachem l'a appelé Minahar de la montagne. D'accord ? Bon, il y a beaucoup à dire. Vous voyez qu'une fois il y a Elohim, une fois il y a Hachem, il y a deux fois le nom de Dieu. Exactement. Et qu'est-ce qu'Hachem lui a dit de dire ? Écoutez bien. Kotomar, les bêtes Yaakov, cette phrase connue, ainsi tu parleras à la maison de Yaakov, Betaged l'Ibné Israël, et tu raconteras au Bné Israël. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Il faut leur dire que je vais vous donner la Torah, je vais vous donner les mitzvot, et le passage qui continue, Vitemli, Segula, et vous serez pour moi un trésor, Mikola Amim, parmi tous les peuples, Segula c'est un trésor, Vatem Tiyuli, et vous serez pour moi Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres, Vegoy Kadosh, une nation sainte. D'accord ? Donc ces deux versets sont l'introduction au don de la Torah, au don des 10 commandements. Je vous les répète.
Shumot.
Et quelque chose qui est connu. Donc Moshe, il est monté vers Hachem. Et Hachem, il a dit, deuxième ligne, Kotomar, ainsi tu parleras les Beth Yaakov à la maison de Yaakov. Et vous savez que le Beth Yaakov, c'est comme maintenant, c'est l'école des filles. Et en général, Beth Yaakov, c'est les femmes. Mais Taged, les Bnei Israël, tu raconteras aux Bnei Israël, ça c'est les hommes. Donc il y a Hachem, il lui dit, tu vas t'adresser aux femmes et aux hommes. Et qu'est-ce que tu leur diras aux deux ? Vitemli, Segula, vous allez être pour moi un trésor. Mikol Amim, de tous les peuples, vous serez un peuple de prêtres, Vegoy Kadosh, une nation sainte parmi toutes les nations. D'accord ? C'est la notion de peuple élu qui nous vaut tellement de haine. Comme dit la Gemara, pourquoi ça s'appelle le mont Sinaï ? Parce que la Sina, elle est venue, c'est un jeu de mots, parce que c'est avec un Sin, l'autre avec un Samer. Mais la Sina, la haine du peuple juif devant les nations, c'est venu de ça, parce que vous êtes un peuple saint, un peuple, ce qu'on appelle le peuple élu. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a l'habitude de faire remarquer, que vous avez deux termes différents. Tomar, les Beth Yaakov, mais Taged, l'Ibné Israël. Omer, en hébreu, c'est un terme tendre, et Taged, c'est un mot dur. D'accord? Même dans la sonorité, Omer, c'est une sonorité douce, alors que Taged, c'est une sonorité dure. Et Rashi, il fait dériver le mot Taged, bien que c'est l'origine du mot Agada, qui veut dire raconter. Rachid dit que Taged, c'est Mélachon guide, un nerf, comme un nerf de bœuf. Et donc, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu diras tendrement, tu parleras tendrement aux femmes juives, et tu parleras durement aux hommes juifs, en leur apprenant les punitions et la sévérité de ne pas respecter les lois de la Torah. Donc voilà, vous avez ces deux termes, Kotomar les Beth Yaakov, tendrement aux Beth Yaakov, mais Taged et durement les Bnei Israël. C'est bon ?
Ouais.
Et c'est ce que dit Rashi. Rashi fait dériver le mot de Tagid de Gidin. Les guides, comme le guide anaché, le nerf sciatique. Donc on est marre. Donc je suis désolé, le texte il est en exclure Rashi, mais bon, on s'habitue aussi. Ou Piresh Rashi. Rashi il a expliqué, mais Tagid l'Ibné Israël, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu raconteras aux enfants d'Israël, Tagid, on dirait de l'allemand, Onchim, les punitions, Vedigdukim et les détails, Piresh Lazharim. Tu les expliques aux hommes, Dvarim, Akashim, Kegidim, des choses dures comme des nerfs. D'accord ? Très bien. Et on a l'habitude de voir ça comme ça, c'est normal, aux femmes on leur parle doucement, hein, parce que de toute manière les femmes elles sont tout à fait réceptives, mais les hommes ils sont toujours un peu rebelles. Dès que tu dis quelque chose, il y en a toujours un qui dit mais non, le contraire, le contraire du contraire du contraire, ça c'est l'habitude chez les hommes. D'accord ? Mais Ikshuam Parshim, et ils ont demandé les commentateurs. On n'a pas trouvé dans les phrases qui suivent des choses dures. Pourquoi Rashi, il dit qu'Hachem, il a parlé durement, Gidin, etc. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Kotomar betaged. D'accord, c'est vrai que c'est marqué durement. Mais c'est quoi les deux phrases qui suivent ? Vous allez être pour moi le trésor des nations, vous serez pour moi un peuple saint, une nation sainte. C'est très gentil, c'est très doux. Je dis, je vais m'énerver avec vous, hein. Ah, vous êtes l'homme le plus gentil du monde. Si tu t'énerves, je t'énerve pas. Tu es en train de dire qu'il est le plus gentil du monde. Tu comprends ? Donc tous les commentateurs, ils ont dit comment Rashi, il peut se permettre de dire, bien qu'il cite la Gemara, que le mot Tagid l'Ibn Israël, c'est un mot qui signifie parler très durement, alors que l'ouverture de sa phrase, c'est de dire, de l'omatatun kan zorin kashim, adraba, au contraire, amar laem dvarim arevim, il leur a dit des choses agréables, venechmanim et douces, chez nit'alou, qui sont élevés, venitromemou, et qui sont au-dessus, mikol am de tous les peuples, yod mamlechet koanim, pour être une nation sainte. C'est bon, tu suis, Michael? Tu arrives à suivre dans Rachid? C'est à peu près la même chose. Il faut s'habituer. C'est à peu près les mêmes. C'est la même chose. La question, elle est claire? D'accord? Que la suite des versets, on a l'impression qu'au contraire, il est en train de les encenser. Et toi, Rachid, tu me dis qu'il est en train de les démolir en leur disant ta guide. C'est bon pour vous? Mais Efchar les Faresh. Et on pourrait expliquer ça. Alpi Mahamar Maran Abal Shem Tov Akadosh. D'après un enseignement du Baal Shem Tov HaKadosh, qui est la source de toute la Chassidoute, Uva be Toldot Yaakov Yosef, c'est rapporté dans un sefer ancien de la Chassidoute, de Toldot Yaakov Yosef, Rav Yosef Mipolna. Que quoi? Le Baal Shem Tov, il a dit un très grand enseignement. Ala Katouf sur un verset qui dit El Nekamot Adonai, El Nekamot Ufia. Ça, c'est un pasouk dans Tehilim, qui dit Dieu de la vengeance, c'est Hachem, El Nekamot, c'est un Dieu de vengeance, Ufia qui est apparu. D'accord? C'est un passage dans Tehilim qu'on a on dit le matin dans Oudou. D'accord? Le matin, à la fin, au milieu d'Oudou, il y a ça. Or, Ulchaora, c'est un passage difficile. Er Shayach va Nekama Shem Arachamim. Comment on peut parler, quand on parle de vengeance, de punition, du Shem Arachamim? Si vous avez remarqué, il a bien dit Avaya Yudke Vavke, le Dieu. C'est un dieu de punition, un dieu de vengeance, Hachem. Mais Hachem, c'est Midata Rachamim. Tu peux pas dire qu'Hachem, c'est le dieu de vengeance. Il fallait dire, El Nekamot Elohim, El Nekamot Ophia. D'accord? C'est bon pour vous ou pas? Ou pas, Michael? Est-ce que tu suis? D'accord? On a l'habitude d'expliquer qu'Hachem, il apparaît dans le monde sous différentes facettes. Et c'est suivant les facettes d'apparition qu'on lui donne un nom, parce qu'Hachem, en essence, il a pas de nom. Quand il apparaît Bemidat Arachamim par sa bonté, alors on dit Yudke Vavke, Ado. Et quand il apparaît Bemidat Adin, en punition, Elohim. D'accord? La rigueur, la sévérité, quelque chose qui ne laisse pas la place au dépassement. C'est pour ça que la création du monde, c'est Bereshit Bara Elohim et Hashem. Parce que la nature, c'est quelque chose comme un code civil. Les choses, elles sont fixées, elles sont bloquées. Ok? Donc, le Baal Shem Tov, il a demandé, pourquoi c'est marqué El Nekamot Hashem, El Nekamot Ophia? Et là, répondu comme ça, le Baal Shem Tov. Je suis à la 2, 4, 6e ligne du deuxième paragraphe. Machal, c'est l'exemple. Tout le monde est bon?
Oui.
Les Ish Kfari. Un homme villageois, un Kfar, Echad, chez Marad Bameler. Pour comprendre le Baal Shem Tov, comme beaucoup de maîtres de la Chassidoute, il ramenait toujours des Machalim, des exemples, des histoires qui étaient plus audibles. C'est comme le Rabbi Nachman, avec les contes de Rabbi Nachman. Donc il dit, pour comprendre cette question-là, il dit, c'est l'exemple d'un homme villageois, chez Marad Bameler, qui s'était révolté contre le roi, chez Ika Veragam, et il a tapé, et il a mutilé, Ikunim Shel Meler, la statue du roi. D'accord? Il s'est énervé contre le roi, il y avait une statue dans son village, il a cassé le nez, les oreilles, enfin il a craché dessus, au cas où il s'est basé. Il s'est vraiment défoulé sur la statue du roi. Oumiyad, tout de suite, il a été attrapé par la police. Asa Amelech Otoleroche. Et le roi, il l'a mis à la tête. Il a dit, tu sais quoi? Je vais te nommer maire du village. D'accord? Il l'a anobli, il lui a donné une maison, il l'a nommé maire du village. Je vais et là où? Et il l'a fait monter, mi madriga les madriga, de niveau, de marche en marche, ad sena asa michne la meler. Jusqu'à ce qu'il en fasse le second du roi. Donc bon, on peut dire c'est ce qu'on peut faire si tu veux un révolutionnaire, c'est le meilleur moyen, tu vois, tu les mets dans le gouvernement et tu les fais taire, d'accord? C'est ce qu'on a là, on aurait imaginé que j'ai l'idée. Et tout ce qu'il a été bon le roi avec lui, yoter, encore plus, chaque fois que le roi, il le levait, il le montait, il l'aidait, Vevio le yoter madriga, il l'amenait encore à un niveau plus haut, verra yoter kavoda meler, et plus il voyait l'honneur du roi, ou mesharta avec ses serviteurs, vanagota avec son comportement, plus il s'approchait du président, Ayayoter Tsahar Lazé. Plus il avait de souffrance. Chaya Ben Kfar, qu'il était un villageois. Il disait, mais comment? Moi, villageois, j'arrive aussi haut. Je suis le second du roi, je suis dans le palais du roi. Et alors, Bezocho, quand il se souvenait, chez Marad Neged Ameler, qui s'était révolté contre le roi Agadol, Rahman Azé, tellement miséricordieux. Ça veut dire que le roi, plus il faisait monter, plus l'autre il pleurait. Il disait, mais je suis bête, regarde, un roi tellement gentil, tellement bon, et moi je me suis révolté contre le roi. Et le roi dit, tu sais quoi, les ministres des finances, ministres, premier ministre. Et le jour où il l'a nommé premier ministre, il est tombé en larmes. Ou Machaya Raoul et Onesh, parce que ce qu'il aurait mérité une punition, ou Métivimo, il était bon avec lui encore plus. Et plus le roi, il lui faisait du bien, et plus lui, il avait des remords. Vers Meler, et ce roi-là, Asabe Kavana Mekouvenet, il a fait avec une intention dirigée. Il dit pourquoi? Chez Imaya Memito, s'il l'avait tué, d'accord? Directement. Ayat Sa'ar, l'Efisha'a, il aurait souffert un instant, Vetoulo, et c'est tout. Tu vois, je le condamne à mort. C'est fini. Il est condamné à mort, et après, il est mort. Mash Enken, ce qui n'est pas pareil, Bederzo, de cette manière, Mitzta'er Kol Yamav, il va souffrir toute sa vie, ou Mosif Tamid, il va continuer à avoir de la souffrance. Ça veut dire du remords. C'est-à-dire que parfois, il y a des fautes tellement graves que la mort, ça ne sert à rien. Tu l'as tué, tu l'as frappé, après il est mort, il est mort. Il vaut mieux qu'il ait du remords sur la bêtise qu'il a faite. Comment on peut faire si c'est un homme méchant? Bien, si tu lui fais du bien, normalement, sauf si c'est des gens bien constitués, mais il y a des gens qui ne sont même pas dans ce niveau-là. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre ce machal-là. Parce que quelque part, ça a l'air d'être un machal cruel. Vous voyez, c'est un machal un peu vicieux. C'est-à-dire que, je vais le faire souffrir, alors je vais... Non, l'idée, pour le roi, peut-être, c'était ça. Peut-être pour le machal du roi avec le villageois, si je vais le faire souffrir, avec non, il va brûler de regret. Mais le Baal Shem Tov, il dit que ce machal-là, Hachem, il l'utilise. Regardez bien. Kshala, je suis à la deuxième colonne. Kshala, le Yoter Gdoula, quand il est monté en plus de grandeur, Mosif Yoter Tsaha, ça rajoute de la souffrance. Al Tsaharo sur sa souffrance. Plus il monte, plus le roi lui fait du bien, plus il a du remords. Er mela o libo. Comment est-ce que son cœur l'a poussé, l'imrod enekvodo, de se révolter contre le kavod du roi? Ça, c'est le machal du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il dit, c'est ça l'explication du pasuk de Teilim. Veze sheneemar. Et voilà ce qui est marqué, el nekamot Hashem. Akadajuru, c'est un dieu vengeur. Rotzelomar. Shenikmat Hashem. Que la vengeance, mais le mot vengeance, c'est un peu, c'est pas le mot approprié. Il faut plus dire, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, il punit, on va dire plus comme ça. El Nekamot Hachem, Rotzelomar, comment c'est possible d'associer le nom de Midat Rachamim avec l'idée de punition? Comment est-ce? Exactement, c'est ce qu'il va dire. Mais au départ, le pasuk il parle pas de prise de conscience. Il dit punition, Nekamot, vengeance, punition. Alors il dit, le Baal Shem Tov dit, mais c'est pas possible, c'est pas de la rachamim, mais la punition. Il dit, Rotzelomar, chez Nikmat Hashem, que la punition d'Hashem, ou Aliyede Midat Rachamim. C'est par la miséricorde. Ça veut dire que Hashem, en étant bon, c'est là où il nous fait payer notre erreur, et il nous l'a fait pardonner. Dans l'idée du roi, on avait juste l'impression qu'il voulait juste venger du paysan. D'accord? Mais pour Hashem, c'est pas comme ça. Hashem, lui, quand un homme il a fait une faute, il a sali sa neshama. Hachem, il veut pas que cet homme y reste là. Il veut qu'il comprenne son erreur. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lui faire des croche-pieds qui se cassent la figure, que la santé, la parnasa, tout. D'accord? Mais ça, c'est l'habitude qu'on a de comprendre. C'est Amitatadine. Hachem, si... Alors, probablement que ça dépend du mérite de la personne. D'accord? Toujours la même chose. Que c'est en fonction du mérite qu'Hachem, il fasse rapporter à lui. Si cette personne-là, il a fait une erreur, mais que bon, il y a du potentiel, alors Hachem, au lieu de le punir, et que c'est la punition qui va lui faire prendre conscience, il va dire, oh purée, avec tous ces ennuis, il faut se faire tchouva. D'accord? Mais c'est le din qui lui fait prendre conscience. Parfois, quand un jour, quelqu'un a fait une bêtise, et Hachem, il lui déverse du bien. Et l'autre, il va dire, oh purée, tu vois, regarde, avec les bêtises que j'ai fait, Hachem, il est quand même bon avec moi, et c'est la bonté qui va lui faire tchouva. Et donc, il dit le Baal Shem Tov, je comprends ce pasouk, elle n'est qu'à mot Hachem, que la midat rachamim peut être un instrument de la punition. Mais dans le sens positif, attention. Ok? Sur la troisième ligne, Rotzelomar, chez Nikmat Hashem, que la punition d'Hashem, ou Ali Demitat Rachamim, elle est par l'attribut de miséricorde. Chez Lokemidat Basar Vadam, pas comme les humains, que c'est rare de faire ça chez les humains. Parce qu'en général, quand on fait ça chez les humains, bon, pour des raisons que je m'explique pas, mais eh bien, les gens, ils comprennent pas ça. Les gens, au contraire, plus tu es bon avec quelqu'un qui t'a fait du mal, plus tu t'écrases. Il n'y a qu'à voir ce qui est avec Six Noirs. Ils l'ont accueilli, ils l'ont soigné, ils l'ont guéri, il était en prison, et voilà le mal qu'il nous a fait. Mais où qui elle n'est qu'amot Hashem? Parce que lui, Bémet, c'est, il n'y a même pas de remords, il n'y a pas de Neshama, c'est placé. C'est le mal parfait. Mais où qui elle n'est qu'amot Ophia? Et comment cette Midat Rachamim, elle peut être de la punition? Qui elle n'est qu'amot Ophia? Parce que le Dieu de la punition, Ophia, il t'est apparu. L'apparition d'Hachem, oui. C'est ça qui va te donner conscience, qui va te faire ton conscience que ton erreur, malgré ton erreur, Hachem, il est bon. Rotselomar, ça veut dire Shanekama ou, c'est quoi la punition? Ben, Mashofi alomik de la to, c'est parce qu'Hachem, il lui apparaît dans sa grandeur. Ou bien, Otok de la tameler, et en voyant la grandeur du roi, ou bien Zoho, et en se souvenant, encore faut-il que, chez Marad Negadameler, qui s'était révolté contre le roi, En lechatsar gadolmise, il n'y a pas de plus grande punition et sous-entendu de plus grande prise de conscience. Dans le sens, c'est pas la punition qui t'intéresse, il n'y a pas de plus grande prise de conscience, de plus grande tchouva. Que la tchouva, elle va arriver, regarde, j'ai fait plein de bêtises, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, et Hachem encore, il est bon avec moi, il m'a donné des bonnes rencontres, il m'a aidé, etc. Ça, c'est la meilleure prise de conscience. Ad kan dvara vakdushim. Jusque-là, c'est les paroles saintes du Baal Shem Tov. Donc, à partir de cet enseignement du Baal Shem Tov, qui est un enseignement très important, parce que, ça veut dire, il faut une réflexion. En général, quand un homme, il lui arrive du bien, il pense qu'il mérite. D'accord? Il se regarde, il dit, bon, avec tout ce que je fais de bien, c'est normal qu'Hachem ait mis nombre de sa bonté. Mais en vérité, il peut voir aussi ça. Il peut se dire, mais d'accord, mais j'ai pas fait que du bien. J'ai fait aussi des bêtises. Et voilà, Hachem, il est quand même bon avec moi. Donc, ça va m'aider à réparer les erreurs que j'ai faites. Il faut pas toujours voir que Hachem, il est bon, il te donne. D'accord, il t'a donné, mais soit peut-être il te donne en avance parce qu'il attend de toi, soit il te donne pour te montrer qu'il est bon malgré les erreurs que tu as fait quand tu es un peu athée avant, quand tu étais plus jeune, et quand même il est bon Hachem avec toi. Eh bien, ça, c'est El Nekamot Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, des fois, il peut te punir, te faire prendre conscience, voilà, il faut traduire comme ça, par la Midat Rachamim. Parce que là, c'est à qui? Ça, c'est le Dvar Torah du Baal Shem Tov. Et c'est là, c'est sur le Dvar Torah du Baal Shem Tov que l'armée de Krichinev, il va construire son Dvar Torah. D'accord? D'accord? C'est souvent comme ça, dans la Chassidoute, ils ont un tel grand respect pour les maîtres antérieurs, qu'ils construisent leur propre, comme le Shem Shmuel, il construit sur les enseignements de son père et de son grand-père, toujours, ils reprennent et ils développent. Et qu'est-ce qu'il dit au Meata? Maintenant, ce dernier paragraphe, c'est ce qu'il dit le Rav Tzvi Hirsch Rosenbaum, hein, c'est son nom. Mais attends, Yesh Lomar, on peut dire comme ça. De Bécha'ach et Kiblou Bnei Israël et ta Torah, lorsque les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, Ve Akadajouchou Nidgala Lifneem, Akadajouchou, il s'est dévoilé à eux, Ve Adar Kevon Malchuto, dans la splendeur de son honneur, Ve Tifardo, Ve Ela Otam, il les a élevés, Ve Rouma Madriga, au niveau le plus élevé, Liot Am Segulato, pour être son peuple de trésor. C'est-à-dire que c'est pas juste que Hachem il s'est dévoilé à ce peuple de va-nu-pieds et d'esclaves qui sortaient d'Égypte. D'abord, ils n'étaient plus un peuple de va-nu-pieds. Ils ont déjà traversé les 49 jours de Homer, ils s'étaient déjà préparés. Et la révélation, elle a élevé ce peuple. C'est comme, il faut comprendre que révélation, c'est illumination. D'accord? C'est pas juste, le clan Israël, ils étaient là, et ils ont reçu un message. Non. Le fait de la révélation d'Hachem, ça a électrocuté tout le clan d'Israël. Pourquoi maintenant on est un peuple qui est attaché à la Torah malgré toutes les difficultés et on lâche pas? Avec tout ce qu'on traverse, on lâche pas. Parce qu'on a été électrocuté, entre guillemets, le jour de Matan Torah. Et ce jour-là, cette électrocution, c'est-à-dire qu'on a perçu la présence d'Hachem dans le monde, ce qui n'existe pas. Un juif, quoi qu'il se passe, quoi qu'il lui arrive, il sait qu'il y a Hachem dans le monde. Il lâche jamais. Même s'il a traversé les croisades, même s'il a traversé la Shoah, tout ce qu'il peut avoir traversé, il va pas dire, je lâche tout. Bien sûr, il y en a. Mais robe du peuple juif, d'accord? Il continue, mais comment? Qu'est-ce que tu crois? Non. Je sais, parce que je le sais, c'est incrusté dans mon ADN. Or, ça, les juifs, ils se sont rendus compte, Aya Davar, quand ils ont eu ça, Aya davar nershav, je suis à la cinquième ligne du dernier paragraphe, c'était cette chose-là, l'Ibné Israël pour les Juifs, kemedakerot cherev belibam, comme planter une épée dans leur cœur. C'est-à-dire, la révélation, c'était en même temps un moment d'extase très grand, mais en même temps un moment de remords très grand. C'est-à-dire, imagine par exemple, tu prends quelqu'un qui vient de la rue, d'accord, qui a fait grand bar à la vérote, et tu l'attrapes par l'épaule, tu dis, allez viens, c'est ce soir, c'est toi qui vas faire la tchila d'Arvit. D'accord? Bon, ça lui fait un grand cavode, mais quelque part, ça le remue, ça le secoue, il va dire, mais comment moi, avec, si, ça, d'abord, s'il savait, ben, il sait que tu sais. D'accord? Et quand même, il me donne, alors quelque part, ça le remue intérieurement, ça le bouleverse, et quelque part, c'est ça qui va l'aider à bouger. Vous comprenez? C'est ça qui va l'aider de lui donner la confiance. Or ça, quelque part, donner la confiance à celui qui ne le mérite pas parce qu'il a fauté, d'accord, ça c'est le meilleur moyen de le bouleverser. Et c'est ça qui s'est passé au moment de Matan Torah. Sha'ala bezika. Et qu'est-ce qu'ils avaient à se reprocher? Sha'ala bezikaron libam, c'est venu dans leur mémoire, de leur cœur. Et tacher chat'u, tout ce qu'ils avaient fauté, ve imru et révolté bemitraïm. Puisqu'en Égypte, ils sont arrivés au 49e degré de Touma. Alors qu'ils étaient les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient une culture, ils avaient les mitzvot, ils avaient des choses, ils avaient des choses par tradition. Ils ont tout abandonné, même Brit Mila, tout était à l'eau. Shayom et Shukaim, ils étaient enfoncés, mais même tête Charetouma, dans les 49 portes de l'impureté, vers Al-Khoub et Choukot Agoïm, ils marchaient même dans les chemins des Goïm, ils se comportaient comme les Goïm. Vegam Imrou les Fanav. Et même après la sortie d'Égypte, ils se sont révoltés devant Hachem, à l'Yam Souf, à la mer Rouge. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont dit, mais non, c'était pas la peine de nous faire sortir d'Égypte, on était mieux là-bas. Vitlonenu al Mezonam, après ils se sont révoltés sur leur nourriture. D'accord? C'est-à-dire, les Juifs, vraiment, ils se sont comportés comme des ingrats. Après les avoir sortis d'Égypte, les 10 plaies, etc., ils se sont révoltés à la mer Rouge. Après la mer Rouge, ils se sont révoltés parce qu'il n'y avait pas d'eau. Après l'eau, ils se sont révoltés parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Ils n'arrêtaient pas de se révolter. Ou Mikol Makom, et malgré tout, on aurait pu attendre qu'Hachem il les extermine. Lo Enisham, il ne les a pas punis à Kadosh Baruch Hu, al Roam al Aleem, sur leurs mauvaises actions. Et la Kirvam, il les a rapprochés, ve Ela Otam, il les a élevés, Liot Mamlechet Kohanim, de devenir un peuple saint. Il aura accordé sa confiance. Et accorder la confiance, c'est vrai que c'est ça qui élève un individu, mais c'est ça qui le remue le plus à l'intérieur. Ve'erif al-em, il a déversé sur eux d'ivrei chiba, des paroles d'amour, des kirvayetera et de rapprochement. Ça veut dire que le matin de Torah, c'est un moment de bouleversement pour tous ces gens-là. Ça veut dire que l'électrocution, entre guillemets, elle a été à la fois parce que c'était un grand moment de dévoilement et à la fois également parce que c'était un moment de grande confiance. La confiance qu'Hachem il a eue dans un peuple qui quasiment ne le méritait pas. Et quand même, il leur a accordé son amour et en leur disant, c'est vous qui allez être le peuple Goy Kadosh. Ou Bachar Bahem, il les a choisis, l'Iten Lahem et la Torah, pour leur donner la Torah. Vous êtes bon? Ou Mise Baou l'Ide Charata Gmura, et c'est avec ça qu'ils sont venus à un remords complet. Ils ont fait Tshuva Shlema au moment de Matan Torah, et c'est pour cette raison qu'au moment de Matan Torah, c'est marqué qu'ils sont revenus au stade d'Adam Arishon avant la faute. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar, et comme ça, c'est marqué aussi dans le Midrash. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que Hachem, il a une tellement grande bonté avec tout ce que j'ai fait, tellement il est bon avec moi. Mais Chazru B'Tshuva Shlema, ils sont revenus avec un repentir complet. C'est bon, Michael? Je suis 5 lignes avant la fin. Ou pas trouver Amrou, c'est à ce moment-là qu'ils ont ouvert la parole et qu'ils ont dit Nas et Vénisha. On fera et on comprendra. Ça veut dire, j'accepte tout. Tout. Quelqu'un qui est tellement bon pour ce que je suis, oui, eh bien, je lui dois tout. Chez Kiblou Alem, ils ont accepté sur eux l'Ishmor Velasot, Kol Asher Yetzaveotam, d'accepter tout ce qu'il leur ordonnerait. Ve'alken, et c'est pour cela. Afilou Shayo Advarim Rakim, c'est vrai qu'il leur a dit des choses tendres. C'est vrai qu'il leur a dit vous êtes bon, vous êtes un peuple saint. C'est vrai. Aval BNM, mais à leurs yeux, Ayun Nershavim Kidvarim Kashim, c'était des choses dures, ou Meyasrim qui les ont fait souffrir. Ça veut dire que c'était une révélation qui les a bouleversifiés. Et si vous reprenez le verset, on comprend. Regardez. À la deuxième ligne, en haut à droite. Kotomar le Beth Yaakov. Ainsi tu parleras tendrement à la maison de Yaakov, c'est-à-dire aux femmes. Parce que les femmes, elles ne faisaient pas partie de toutes les fautes, même dans le désert, etc., même dans le veau d'or. Et donc les femmes, c'est toujours tendre. Vetaged l'Ibn Israël. Parle durement aux Bnei Israël. Casse-les. En leur disant quoi? Comment tu vas les casser? Vitem ni segula. Vous allez pour moi un trésor. Mikolami parmi tous les peuples. Vatem ti mamechet koanim. Vous serez un peuple saint, un peuple de près des goy kadosh. Il dit, mais comment tu les casses? Si, parce que je sais que c'est ça qui va les bouleverser. Mais mon but, c'est pas de les bouleverser. Mon but, c'est de leur donner une sorte de, d'électrocution qui va les ramener à la tchouva. Donc on voit que être bon, et c'est vrai que Bémet, on doit se servir de ça, mais il ne faut pas se servir de ça, nous, à titre humain, avec une arrière-pensée. C'est-à-dire que c'est vrai que pour aider quelqu'un, il faut l'inonder de bonté. Parce que quand tu l'inondes de bonté, à l'intérieur, ça travaille. Parce qu'il se dit, mais moi, avec tout ce que j'ai, on m'inonde de bonté, on m'inonde de confiance. En vrai, c'est plus que la bonté, c'est la confiance. Quand tu donnes de la confiance à quelqu'un, tu lui donnes de la force. D'accord? Et comment tu lui donnes? Et lui donner de la force, c'est pas seulement ça. Parce que lui donner de la force, c'est aussi l'occasion de le faire réfléchir. Et de lui faire réfléchir, de dire, avec tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, et quand même on m'aime, et quand même on donne de la confiance, alors j'avance, avant je fonce. D'accord? Une fois, il y avait une très belle histoire, je terminerai là, que dans, au début des 10 commandements, c'est marqué, Kakadajuru, Ayomazé, aujourd'hui vous êtes un peuple. Alors, vous êtes un peuple saint. Alors, le Rashi, il dit, c'est quoi Ayom Azé aujourd'hui? Aujourd'hui, ça veut dire que on doit toujours considérer la Torah comme elle nous a été donnée aujourd'hui. Alors, il y avait un grand Rav, je l'ai lu, mais je ne me rappelle plus du nom de Rav. Une fois, il y a un homme qui est venu le voir et qui l'a dit, Rav, j'ai plus de force pour avancer, j'ai fait trop de bêtises. Alors, le Rav, il a dit, regarde, pourquoi la Torah a dit aujourd'hui? C'est comme si la Torah, elle t'a été donnée aujourd'hui. Il dit parce que chacun, il doit être capable de recommencer aujourd'hui. Ce que j'étais hier, avant-hier, ça n'existe pas. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avance. C'est comme si la Torah, elle t'est donnée aujourd'hui et que tu es un nouvel être. Donc ça, c'est en phase initiale. D'accord? Qu'on doit toujours considérer qu'on démarre aujourd'hui et que mon passé n'a aucune importance. Mais des fois, le passé, il est lourd. D'accord? Et on a du mal à... Et on a des boulets derrière. Alors il dit, on voit le grand chidouche et du Baal Shem Tov et du Rabbi de Krichinev, c'est que le fait d'accorder la confiance, d'accord, que, c'est comme si tu disais, c'est assez ambigu, mais ça rejoint le Ayom Azir. Ce qui était hier ne m'intéresse pas, moi, d'accord. Je nomme ministre, je nomme premier ministre, je nomme peuple saint, je nomme rabbin, je te laisse faire arbitre, je t'offre tout ce que je peux, et à l'intérieur, la personne, il aura justement cette prise de conscience, tandis, tu as vu, à la fois, ça le fera faire tchouva, parce qu'il dit, avec tout ce que j'ai fait, on me fait confiance, d'accord, et ça va le bouleverser, et ça va l'électrifier, mais également, ça lui permettra de comprendre que malgré tout ce qu'il a fait, on peut encore lui faire confiance, et il peut encore construire. Donc vous voyez, c'est à double sens, c'est pas juste un problème de punition. C'est punition qui va entraîner une prise de conscience, et prise de conscience qui sera un ressort pour avancer malgré le poids du passé. Et c'est donc dans ce sens-là qu'il faut le prendre, que la punition d'Hachem, d'accord, c'est un booster pour le futur. D'accord, parce que à la fois, ça permet à la personne de se dire, regarde, j'ai fait des bêtises, et il m'aime quand même. Et il dit, puisqu'il m'aime quand même, et le deuxième après, puisqu'il m'aime quand même, malgré mes bêtises, c'est qu'il a confiance que je peux aller beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, ça le booste pour réparer même toutes ses erreurs. Oui. Voilà. Donc c'est ça, ce chidouche, ça gagne l'hymne Israël. Tu vas parler durement. Je veux que tu le casses. Comment? En l'aimant. Comment tu vas le casser en l'aimant? Parce que ça lui montrera qu'on a confiance en lui. C'est les deux choses sont liées. D'accord? C'est pas juste l'électrocuter, c'est l'électrocuter pour le dynamiser. Voilà. C'était un très beau vort parce que c'est un vort qui s'applique beaucoup, qui s'applique dans les familles, qui s'applique avec les enfants, qui s'applique avec la société, dans énormément de domaines, et qui s'applique aussi et en premier avec nous-mêmes. Ça veut dire que quand on a ses petites valises, etc., mais on voit qu'Hachem, il est bon avec nous, qu'il ne nous a pas lâchés. Donc, quand je vous dis, je ne t'ai jamais lâché. D'accord ? Et je vous redirai encore, c'est le beau machal qu'on avait lu, qu'on avait dit il y a tellement d'années, qu'un type, il a rêvé qu'il marchait, toute sa vie, il marchait, il y avait Hachem qui le tenait la main. D'accord ? Et quand il voyait sa vie se dérouler, oui, après, comme s'il marchait sur du sable. Et il voyait quatre pieds. Et pour lui, dans son rêve, il disait, c'est Hachem qui est à côté de moi. Et à un moment, quand c'est arrivé le moment dur de sa vie, il a vu plus que deux pieds. D'accord ? Et alors il s'est interrogé, il a dit, Hachem, Hachem, mais tu m'as abandonné, maintenant que ça devient dur. Hachem, il dit, mais non, tu comprends pas. Ces deux pieds, c'est les miens, c'est moi qui te porte. D'accord ? C'est moi qui te porte dans mes bras. C'est-à-dire qu'Hachem, en vérité, il abandonne jamais un homme, quoi qu'un homme il ait fait, quoi qu'un homme il ait, même si un homme il traverse des difficultés, Hachem il est avec lui. Qu'Hachem il soit avec le cœur d'Israël tout le temps. Amen.